Le journal Germain Trey. Bonjour Germain.
Bonjour. La traque après le double attentat en Catalogne. La police est sur la piste d'une cellule d'une douzaine de terroristes. L'un d'entre eux est en fuite, Younes Abou Yacoub. Sa photo a été diffusée dans toute l'Espagne. Un point complet sur l'enquête dans un instant. Nous verrons aussi qu'à Barcelone, la vie reprend son cours, douloureusement. Au Venezuela, la crise politique s'amplifie. La nouvelle assemblée constituante a désormais tous les pouvoirs. L'opposition est réduite au silence ou obligée à l'exil, comme l'ex-procureur Luisa Ortega. Et puis dans 10 minutes, le journal des sports, du foot au menu avec la victoire de Monaco à Metz, le club princier provisoirement en tête de la Ligue 1. Deux attentats à Barcelone jeudi en fin d'après-midi et à Cambrils la nuit suivante. 14 morts, des dizaines de blessés, une double attaque revendiquée par l'État islamique. La police cherche à dénouer les fils de cette ignominie. L'enquête progresse rapidement. Une seule cellule d'une douzaine de djihadistes serait donc à l'origine de ces terribles événements. 5 terroristes ont été abattus, 4 ont été arrêtés. Emmanuel Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Il est probable qu'un ou plusieurs tueurs soient dans la nature.
Oui, en tout cas un, ça c'est sûr. On connaît son nom, il est d'origine marocaine, Younes Abou Yacoub. Il est âgé de 22 ans. Sa photo diffusée partout, recherchée par toutes les polices en Catalogne, dans les régions voisines, y compris en France où il aurait pu passer la frontière à bord d'un Kangoo blanc, même si les différents passages frontières sont extrêmement surveillés depuis les attentats avant-hier soir. Depuis 48 heures, en tout cas, deux autres noms de suspects sont apparus, les frères Oukabir, Driss et Moussa, dont la famille au Maroc, dans le Moyen Atlas, en pays berbère, a provoqué la stupeur. Le plus jeune Moussa serait bien le conducteur du van qui a fauché des dizaines de personnes à Barcelone, abattu quelques heures plus tard dans la station balnéaire à Cambrils avec 4 complices. Les papiers d'identité du frère Driss Oukabir ont été retrouvés dans l'un des véhicules des terroristes, mais il affirme qu'on lui avait volé sa carte d'identité, qu'il n'a rien à voir avec les attentats. Pour l'instant donc, les enquêteurs pensent avoir reconstitué l'existence d'une cellule répartie sur 2 villes, à Ripoll au nord de Barcelone et puis au sud de la capitale catalane, à Alcanar, une villa qui servait d'atelier de fabrication d'explosifs.
Oui, c'est ça, les autorités espagnoles pensent que Daesh prévoyait une attaque de plus grande envergure, échec de la conspiration après l'explosion de cette maison à Alcanar.
Oui, et les journaux espagnols comme El Mundo évoquent une cellule terroriste qui préparait depuis des mois des attentats pour faire des centaines de victimes, avec voiture piégée, ceinture d'explosifs, si cette planque effectivement d'Alcanar n'avait pas explosé elle-même mercredi soir vers minuit, avec à l'intérieur a priori un ou deux artificiers. Les enquêteurs ont retrouvé les restes de 2 corps, une vingtaine de résidus de bonbonnes de gaz, des traces d'acétone et autres indices qui prouvent qu'il s'agissait bien d'un atelier de confection d'explosifs.
Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter. Barcelone meurtrie tente tant bien que mal de retrouver ses habitudes insouciantes de ville festive et joyeuse. Les habitants et les touristes arpentent de nouveau les Ramblas, c'est vrai, mais beaucoup sont encore très éprouvés par les scène d'horreur de jeudi. C'est ce qu'a constaté Thibault Lefebvre qui a rencontré des témoins du drame.
Paco Sierra est le porte-parole de la municipalité de Barcelone. Une barbe parfaitement taillée, un costume sur mesure. Ce quadragénaire oublie quelques instants son statut d'homme politique. Les yeux humides, il raconte son attentat de Barcelone.
J'étais avec une jeune fille qui était blessée à la jambe. Il y avait aussi 2 autres personnes, 2 Français. Un qui avait la hanche cassée et sa femme qui avait une blessure assez profonde à la tête. Sur la voie, à l'endroit exact où nous nous trouvons, il y avait des corps dissimulés sous des couvertures en aluminium, des personnes mortes.
Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
Très mal. J'ai dormi 1h30.
Un mal-être que ne connaît pas, en tout cas pour le moment, Ivan. Ce jeune homme travaille dans un kiosque à journaux en haut des Ramblas, à l'endroit où la fourgonnette a commencé jeudi sa course meurtrière.
J'ai vu une fourgonnette traverser les Ramblas en écrasant des personnes. Il y avait beaucoup de monde par terre. On ne savait pas qui était mort et qui était blessé. Il y avait aussi beaucoup de sang, beaucoup de cris. C'est la première fois que je vois ça. Ça fait un peu mal, mais ça va aller.
Ivan a tenu à venir travailler moins de 24 heures après l'attaque, une nécessité pour ce vendeur de journaux qui n'a pas voulu, dit-il, laisser ses habitués sans information.
Thibault Lefebvre, envoyé spécial de France Inter à Barcelone. Et à 8h20, on reparlera de ces attentats avec votre invité Laetitia Gaillet, le diplomate et parlementaire européen espagnol Ernest Urtasun.
8h05 sur France Inter, la suite du journal Germain Trail. On va aux États-Unis. Donald Trump limoge son sulfureux conseiller Steve Bannon.
6 mois à la Maison Blanche et Steve Bannon quitte par la petite porte Washington. Il était le conseiller stratégique du président américain, un homme connu pour sa proximité avec l'extrême droite. Ce départ permet à Donald Trump de calmer un peu son camp qui ne supportait plus les provocations de Bannon. Et ça permet aussi à Trump de se refaire une toute petite virginité politique après ses propos controversés sur les suprémacistes et les néo-nazis. Un attentat, eh bien c'est la question que se posent les Finlandais hier à Turku, dans le sud de la Finlande. Une attaque au couteau a fait 2 morts et 6 blessés. L'auteur présumé des faits a été interpellé. Les motivations de l'assaillant restent pour l'instant inconnues. Les autorités n'évoquent pas à cette heure un acte terroriste.
La figure de proue de l'opposition au Venezuela se réfugie en Colombie.
L'ex-procureur Luisa Ortega, qui s'est fait connaître du monde entier en s'opposant avec virulence au président Nicolas Maduro, est arrivée il y a quelques heures à Bogota. Elle avait été démise de ses fonctions début août par la nouvelle Assemblée constituante, qui vient de s'octroyer toutes les compétences et tous les pouvoirs du Parlement. Un acte de soumission de plus, dénoncé par l'opposition, qui parle ce matin, Andreina Flores, de coup d'État.
Les dirigeants de l'Assemblée nationale étaient convoqués devant la nouvelle Assemblée constituante ce vendredi pour se soumettre, de la même façon que les autres pouvoirs publics l'ont fait, y compris le président Nicolas Maduro. Mais le Parlement, étant le seul pouvoir où l'opposition est majoritaire, ne reconnaît pas l'Assemblée constituante et, en signe de rébellion, n'a pas assisté à la séance. En réponse, la constituante a émis un décret dans lequel elle assume les compétences du Parlement. Son vice-président, Elvis Amoroso.
L'Assemblée constituante déclare assumer les compétences pour légiférer dans les domaines qui sont liés à la garantie de la paix, de la sécurité, de la souveraineté, le système socio-économique et financier, les fonctions de l'État et la prééminence des droits de tous les Vénézuéliens.
Du côté de l'opposition, ces déclarations sont perçues comme l'annulation officielle du Parlement et par conséquent comme un coup d'État. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Julio Borges, a convoqué une session parlementaire spéciale ce samedi où il sera accompagné par plusieurs représentants diplomatiques au Venezuela. À Caracas, Andreina Flores, RFI, pour France Inter.
Les États-Unis et de nombreux pays d'Amérique latine dénoncent la décision de l'Assemblée constituante de s'arroger tous les pouvoirs législatifs. Le régime de Maduro se conduit comme une dictature autoritaire, estime Washington. Patience et prudence si vous prenez la route. Aujourd'hui, un week-end de chassé-croisé. Il va y avoir du gros bouchon orange dans le sens des départs et noir en Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen. C'est rouge dans le sens des retours et noir dans la vallée du Rhône.
Allez Germain, on change d'air. On sort de l'autoroute pour faire étape à la Côte-Saint-André dans l'Isère.
La ville natale de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, Berlioz. La petite commune iséroise lui consacre un festival depuis 25 ans. L'édition 2017 vient de débuter. Et cette année, on va découvrir un Berlioz méconnu, un Berlioz so British. Nous explique Bruno Messina, le directeur du festival.
Chaque année, il y a une aventure au Festival Berlioz. On raconte un petit peu Berlioz en album. Vous savez, c'est notre Tintin ou notre Astérix à nous, à la Côte-Saint-André, en Isère. Et cette année, c'est l'aventure londonienne de Berlioz. Berlioz à Londres, au temps des expositions universelles. C'est à la fois la passion de Berlioz pour Shakespeare, qui a bouleversé sa vie hein, en tant que comme et en tant que compositeur, et à la fois les aventures qu'il a pu vivre dans ce pays qu'il a reconnu mieux que la France de son vivant. Il a eu des succès incroyables en Angleterre, et finalement Berlioz à Londres, c'est à la fois Berlioz compositeur évidemment, mais Berlioz chef d'orchestre et Berlioz journaliste, parce qu'il est un des principaux commentateurs des instruments de musique à l'exposition universelle de 1851, la première exposition universelle de l'histoire. Il va découvrir le saxophone, et Berlioz est le premier de l'histoire à écrire pour saxophone. La partition a été perdue, mais il reste le programme qui montre qu'il avait écrit pour cet instrument. Berlioz disait que le son était absolument exceptionnel et que ce serait l'instrument du siècle prochain. Vous voyez s'il était visionnaire.
Mais vous avez reconnu ?
Ah oui.
C'est ?
La damnation de Faust.
Bravo de Berlioz.
C'était bien écrit. Hein.
La damnation de Faust, ça c'est à la Côte-Saint-André dans l'Isère. Ce sera plus électrique ce soir à Saint-Malo. France Inter sera en direct en effet de la route du rock de 21h à minuit. L'émission Back to Back avec les concerts de PJ Harvey et Foxygène.
Il sait tout Germain Trey. Merci Germain. On passe au sport.